Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Ce soir, la découverte de la vie parisienne et militante.
Bonsoir Daniel Defer.
Bonsoir.
Après les classes préparatoires, la CAGNE, vous êtes reçu à Normale Sup, vous passez l'agrégation de philosophie. Vous êtes assistant de philosophie, quelque temps, à l'université à Clermont-Ferrand.
Oui.
Vous commencez une thèse dirigée par Raymond Aron. Mais après, c'est la sociologie que vous choisissez, c'est la sociologie que vous avez enseignée. Qu'est-ce que n'avait pas la philosophie qui vous manquait et qui vous a fait choisir la sociologie ?
Oh, je crois que je n'ai pas un goût aussi prononcé pour la pensée purement abstraite. Les très grands philosophes, par exemple, Hegel m'a toujours paru extrêmement... Pourtant, ce n'est pas si abstrait. Hegel, ça m'a paru toujours très difficile. Et en réalité, je crois que je suis plus à l'aise avec l'approche sociologique, même si j'ai trouvé que la plupart des travaux de sociologues sont souvent un peu faibles. Et donc, j'ai du mal à me situer même dans cette catégorie de sociologue. Je ne suis pas vraiment un sociologue empiriste. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est Max Weber. Et pour ça, j'étais élève de Raymond Aron. Et je voulais faire de la psychologie, en réalité. Comme Foucault, d'ailleurs. Foucault a fait une agrégation de philosophie, mais il n'y avait pas d'agrégation de psychologie à l'époque. Il n'y avait pas d'agrégation de sciences sociales. Il n'y avait même pas de licence. Moi, je n'avais pas de licence de sociologie quand j'étais à Lyon. Il n'y avait pas de licence de psychologie quand Foucault était étudiant. Il a été un des tout premiers à passer à licence de psychologie. Donc, c'était l'agrégation qui était le diplôme qualifiant pour la plupart de ces disciplines. Donc, j'ai préparé l'agrégation de philosophie. Et puis, c'était un peu la question. C'était prestigieux. C'était la plus difficile, donc il fallait que j'aie celle-là. Mais ce n'était pas parce que ça m'intéressait, la philosophie, c'est parce que c'était la plus difficile, je croyais.
Ah, vous n'avez pas pris particulièrement plaisir à la préparer ?
Non, mais à la réussir, oui.
Oui. Et vous vouliez faire, Daniel, de faire de la psychologie en enseignant ou vous souhaitiez être psychologue ?
J'avais commencé, peut-être aussi lié à ma question, à ma sexualité, j'avais commencé à trouver que tout ça était un peu problématique. Je découvrais la psychanalyse
très tôt. Ça vous plaisait,
oui,
la psychanalyse ?
Oui, la psychanalyse m'intéressait beaucoup. Et j'avais failli faire une psychanalyse didactique. Et j'avais été, bon, à cause d'épisodes que je passerai, je me suis sauvé de mon école, que j'aimais pas, tout ça. On a voulu que je sois vu par un psychiatre.
Avant le bac en
seconde. Mmh. Des périodes difficiles, Et j'avais été vu par le docteur Berge, qui m'avait proposé une analyse didactique, ce qui m'avait beaucoup plu. Mais il avait voulu que le psychologue qui me suivait envoie un rapport. Et le psychologue était tellement intimidé par le prestige du docteur Berge, qui était un des grands psychiatres psychanalystes des années 50, qui était un descendant de Félix Faure.
Mais c'est vos parents qui vous ont envoyé vers ce monsieur ?
Oui, ma mère suivait pas mal l'actualité, oui. Ma mère était une intellectuelle. Je n'avais pas fait d'études, c'était une autodidacte, mais elle a tout le temps lu. Elle a appris le latin quand j'ai été au lycée, au collège, pour m'aider à faire du latin. Elle a appris l'anglais à la Libération. J'ai été voir le docteur Berge qui voulait me faire une didactique. Et je serais devenu psychanalyste si le psychologue n'avait pas été si intimidé qu'il n'a jamais envoyé le dossier et l'affaire est tombée à l'eau. Mais un ami de mes parents, qui était un des tout premiers fonctionnaires de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, m'a dit « Non, la psychologie, c'est une impasse. Il faut faire de la philosophie, c'est ce qui vous donnera la vision la plus large de ces disciplines et vous pourrez choisir. Donc, il faut toujours commencer par la vision la plus large d'un domaine et après, on peut s'orienter. Donc, voilà pourquoi j'ai fait de la philosophie. Je suis entré en CAGNE pour faire de la philosophie. J'avais eu une très bonne prof de philo qui avait été reçue à l'agrégation l'année où elle m'enseignait. J'avais eu une mention très bonne en philo, donc je suis entré en CAGNE à Lyon, comme ça. Il y avait Jean Lacroix qui n'était pas un bon philosophe, mais qui était très connu. Et c'est Raymond Aron qui, ayant un poste en sociologie, au CNRS, me dit, après tout, vous faites de l'épistémologie des sciences sociales, c'était ça le sujet de ma thèse. Épistémologie des sciences sociales, ça peut être considéré comme de la sociologie. Et il m'a fait entrer au CNRS comme sociologue. À ce moment-là, je me suis mis à apprendre la sociologie un peu plus techniquement. J'ai suivi quelques cours de Bourdieu, je suis resté lié à Bourdieu. Bon, voilà, voilà comment je suis devenu, par d'abord, une sociologue.
Et après, vous n'avez pas repensé à devenir psychanalyste, à reprendre?
Non. Non, quelquefois je me dis que j'aurais peut-être été, peut-être que j'aurais pu être analyste. Je pense que j'ai une certaine écoute. En tout cas, au sein de AIDE, je constatais que j'arrivais à obtenir que les gens disent des choses difficiles. Peut-être que j'aurais pu être analyste, mais bon, tant que je tourne une page, c'est terminé. Bon, voilà.
Lorsque vous arrivez à Paris, hein, Daniel Defer, donc. C'est pour préparer l'agrégation.
Ben, c'est-à-dire que, oui, quand on entre à... Je suis entré à Saint-Cloud. Hein,
oui, pas
donc,
Hume,
je me suis fait coller deux fois à l'oral d'Hume. Je suis entré à Saint-Cloud. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai que pour entrer dans une école normale, il ne faut pas avoir encore sa licence d'enseignement. Donc, il fallait que je termine. Et puis, après, je prépare l'agrégation de philo, forcément, puisque c'était vers ça que je m'orientais.
Et vous sortez beaucoup? Vous commencez à sortir?
Bah oui, j'avais découvert pendant l'oral
le monde que vous aviez aperçu en Cagne, enfin pendant les classes préparatoires et qui vous avait fait rester à Lyon, ce monde de la nuit.
Oui, j'avais découvert que c'était une boîte gay. Bon, ça j'ignorais l'existence de ces endroits-là. C'est la première fois que j'y entrais. C'est un de mes camarades qui avait été en Cagne avec moi. À Lyon, qui était entré à Normal Sup Ulm un an avant, et qui m'emmène pendant l'oral. Je n'étais pas très malin pendant l'oral, j'aurais mieux fait de réviser. Il m'emmène pendant l'oral, mais j'avais une telle angoisse que c'était un peu fatal que ça se passe comme ça. Il m'emmène donc au Fiacre, qui était une boîte très... très sympathique, très drôle d'ailleurs, assez unique, hein, parce que en fait, c'était un bar... au rez-de-chaussée, et en haut, c'était un restaurant très mondain. Le Fiacre était un endroit où, d'une certaine manière, l'orientation sexuelle n'était pas dissimulée au tout Paris. Hein, on voyait tout un ensemble de gens fort connus dans Paris, Timon Deline. Et donc, c'était intéressant de voir que c'était pas une sexualité si clandestine. C'était une sexualité parfaitement complice pour un certain milieu mondain parisien. Hein. Et le premier jour, je suis arrivé dans ce bar. Sur le pas de la porte, il y avait deux messieurs qui, bon, j'avais un certain âge déjà, qui connaissaient bien mon camarade. En plus, comme il était normalien, il avait un certain prestige. Ces deux messieurs, visiblement, n'étaient pas passés par l'école normale et ça faisait partie un peu des blessures d'identité. Et donc, il leur dit que je présente l'oral. Donc, je suis adoubé immédiatement. Ils me disent leur nom. Donc, l'un était Roland Barthes et l'autre Jean-Paul Aron. Il se trouve que Roland Barthes, j'avais lu très tôt les mythologies dans la revue de Nadeau, qu'une amie de ma mère me passait depuis l'origine. Donc je connaissais les mythologies et je savais même qu'il était en train de se convertir à une étude sur la mode.
Donc là, on est à peu près en 57,
ah non,
lorsque
vous les rencontrez,
non? On est
en 60.
En 60, d'accord.
On est en 60, oui. En 59, vous avez raison. En 59, je passe l'oral en 59. Et puis je le repasse en 60, oui.
Les mythologies, vous avez plus, Daniel Defer?
Je ne me rappelle pas. Je les avais lues. Je ne peux pas dire que ça avait été le coup de foudre. Hein. Je pense que la critique de la raison pure m'a davantage impressionné. Mais ça m'avait plu, sans doute. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai voulu montrer que je connaissais
que
son nom. Bon. Et alors, il était assez flatté parce que j'étais quand même un petit provincial qui arrivait de Lyon, de la Cagne de Lyon. Et donc, je connaissais les travaux de Roland Barthes. Il n'était pas connu en 59. Hein, Roland Barthes, il était hautes études. C'était pas encore... bon, les mythologies étaient connues, mais ses grands écrits sont un peu postérieurs.
Oui.
Des débuts des années 60, je crois. En tout cas, il était plutôt flatté et il me dit de venir le voir rue Servandoni dès que je serai reçu. Mais là, je ne l'ai pas été, c'était pendant l'oral. Et puis Jean-Paul Aron me donne également son adresse, que je les ai fréquentés forcément, après, je les ai revus. Et donc je suis collé. L'année d'après, donc je repasse le concours, et c'est là que mon professeur de Lyon, professeur de littérature Robert Mauzy, que j'aimais beaucoup, c'était un très très brillant, et puis bon, il était jeune, gay, un peu tout, il avait tous les prestiges, c'est-à-dire un universitaire brillant, qui visiblement ne faisait pas mystère de son orientation sexuelle, qui dans son comportement, tout ça, avait un côté un peu provocateur, donc ça me fascinait un peu, je me disais, bon, finalement, on peut se permettre d'être un prof, un intellectuel, d'assumer sa vie, donc ça c'est bien, donc j'avais plutôt un intérêt pour lui, et puis j'apprends qu'il allait être au jury de d'Ulm, alors je veux pas le fréquenter, parce que je me dis, il va penser qu'il s'est intéressé, donc je le fréquente peu, il est un peu déçu de ne plus me voir, et à l'oral, quand je suis collé, il vient me voir et il me dit « il faut repasser ce concours, c'est pas possible », et voilà mon téléphone, à la rentrée, vous venez me voir, et à la rentrée, il me dit « bon, le meilleur philosophe de sa génération est à Paris, je vais vous emmener dîner avec lui, il va vous convaincre qu'il faut repasser ce concours », voilà. Et il me présente à un inconnu qui s'appelait Michel Foucault.
En 1960,
voilà.
Avec votre entrée à l'école normale, Daniel Defer, commence votre engagement politique ?
Alors, oui, un peu par hasard. Je ne peux pas dire, parce que quand j'ai appelé ce livre « Une vie politique », c'était un peu par ironie. Parce que en fait, bon, c'est vrai que ma vie, il y a pas mal d'engagement politique, mais en même temps, on m'a proposé, enfin, un de mes très bons camarades de Cagnes et de Saint-Cloud me propose de faire de la politique pour que je ne sois pas englué, absorbé ou détruit par cette vilaine pratique que j'avais l'air d'afficher un peu, qui était ma sexualité. Donc, dans les familles, on propose de faire du football. Ouais. Lui m'a proposé de faire de la politique parce que ça, au moins, c'était sain et ce serait pas compromettant. Voilà. Et alors, il me dit, tu devrais faire de la politique. Et à l'idée que la politique est une alternative à l'homosexualité, ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ben, je dis, ah oui, ben bon, pourquoi pas? À la fois, la guerre d'Algérie, me concernait, c'était quand même ma génération. Mais je suis entré, j'ai accepté sa proposition de m'engager en politique. Alors qu'est-ce que c'était s'engager en politique, j'en savais trop rien. Il m'a proposé de me présenter aux élections de l'école. Nous étions élèves-professeurs, puisque nous étions normaliens, et donc nous étions présentés dans deux syndicats, le syndicat des enseignants, qui était plutôt, je crois, communiste, et le syndicat des étudiants, qui à l'époque était plutôt dans sa direction affilié au PSU, qui venait d'être créé par Rocard et d'autres que j'ai connus, je ne me rappelle plus des noms. Et je crois que le PSU a été créé par là en 59 ou 60, en tout cas c'était le jeune parti qui me paraissait tout à fait intéressant. Donc je suis élu à l'UNEF, et l'UNEF était la principale force politique de l'époque, qui mobilisait les étudiants contre la guerre d'Algérie, qui était pour des négociations immédiates avec le FLN, et ça m'a absolument convaincu, et ça a été là le début d'un véritable engagement.
Le temps passe, arrive mai 68, donc on saute 10 ans. Quelle part vous prenez ? Vous avez déjà une trentaine d'années.
Je ne suis plus étudiant, plus enseignant non plus. Parce que, j'avais fait mon service de coopération en Tunisie, parce que l'armée ne voulait plus des étudiants. Donc, tous ceux qui avaient mené la lutte contre la guerre d'Algérie, l'armée ne voulait plus en entendre parler. Et c'est là, d'ailleurs, c'est un de mes camarades qui s'en était pas mal occupé, qui avait été créé la coopération technique avec tout un ensemble de pays, pas forcément les anciennes colonies d'ailleurs. Et moi, j'avais demandé un poste au Vietnam. J'avais toujours été fasciné par le Vietnam et je voulais aller au Vietnam. C'est en 64, c'est le bombardement du Tonkin que recommencent les Américains. C'est ce qui a fait que je ne suis pas parti. Je suis allé en Tunisie. Ça me laissait un peu dans le contexte de l'histoire de la guerre d'Algérie. Et Foucault découvre la Tunisie, il y part, il y reste un moment.
Il découvre la Tunisie parce que vous y êtes.
Oui,
parce que
oui, il me suit en Tunisie et il découvre la Tunisie à ce moment-là. Et il a peur un peu que je sois fasciné par l'hédonisme tunisien. Il
que le jansénisme soit un petit peu enterré.
Écorné, car à ce moment-là, la Tunisie n'était pas menacée d'intégrisme, au contraire. Et je suis donc un peu... Je reçois un conseil appuyé de Foucault de retourner en France et de continuer ma thèse. Et pour mieux continuer ma thèse, j'entre à la Fondation Thiers, qui était un lieu de recherche pure, on n'a pas d'enseignement, on vivait dans un cadre tout à fait confortable dans le 16e, au rond-point Bugeaud. Et là, je suis donc hors du contexte étudiant, je ne vois rien venir de mai 68. Je découvre mai 68 en mai, quoi. Je vais chercher ma copine qui passait la délégation d'anglais à la bibliothèque Sainte-Geneviève et je découvre le quartier bouclé par la police. Je suis terrorisé par l'équipement de la police. Enfin, je veux dire, je suis révolté. Ça, vraiment, ça a été la réaction devant l'équipement de la police, c'est pas possible de traiter les citoyens d'un pays démocratique avec un équipement militaire pareil. Là, ça a été ça vraiment le départ de ma mobilisation en 68. Mais j'appartenais à aucun groupe particulier. Et donc, j'ai suivi les événements au jour le jour. Mais nous étions, Foucault et moi, davantage mobilisés par les étudiants tunisiens. Parce que les étudiants tunisiens, depuis mars 68, avaient été arrêtés, emprisonnés, certains torturés et condamnés. Ils n'étaient pas encore condamnés, mais on préparait les procès et Foucault s'en occupait activement. Il était en Tunisie à ce moment-là et moi j'allais, je rapportais d'ailleurs dans mes chaussettes les récits qu'ils avaient écrits sur le papier hygiénique pour leurs avocats, pour qu'on sache dans quelles conditions ils étaient traités en Tunisie, dans les prisons tunisienne. Et c'est vrai que mai 68 m'a beaucoup fasciné, mais en termes de violence, de la répression, la violence était en Tunisie et c'est la violence tunisienne qui nous avait le plus mobilisés.
Ensuite, vous allez intégrer la gauche prolétarienne après, donc quand elle est dissoute,
oui,
c'est
alors,
en 70.
C'est-à-dire qu'il y a la création de Vincennes.
Oui.
Et Vincennes, Foucault y est invité par son amie Hélène Sixous, a créé le département de philosophie. Moi, je rejoins le département de sociologie qui est à ce moment-là créé par Jean-Claude Passeron. Et la gauche prolétarienne y est très présente. Les étudiants sont très mobilisés. Tout le monde veut redémarrer mai 68, alors que les élections gagnées par Pompidou ont vraiment arrêté au niveau national le gros du mouvement. Donc, moi, je regarde tout ça avec un certain intérêt, mais je ne suis pas franchement engagé. L'université en elle-même est suffisamment passionnante. Elle est suffisamment politique et passionnante. Tous mes intérêts sont absorbés dans mon enseignement. Comment inventer un enseignant qui réponde à la demande étudiante, qui soit articulé aux problèmes sociaux qui se posent, tout ça. Donc, je suis ça de près, mais à partir de mon enseignement. Et puis, la gauche prolétarienne est dissoute, elle est interdite. Et à ce moment-là, je suis un peu fasciné par un mouvement interdit. Je trouve ça quand même dans un pays démocratique, interdire un mouvement politique, c'est pas acceptable. Donc, il faut que je m'engage. Et je demande à mon camarade Jacques Rancière de m'intégrer dans son mouvement, la gauche prolétarienne. Et je suis affecté, étant universitaire, appartenant à un monde un peu bourgeois, je suis affecté à la préparation des procès politiques, c'est-à-dire faire le go-between entre les prisonniers et leurs avocats. Donc, discuter avec les avocats, préparer les stratégies de défense, surtout selon la vieille tradition léniniste, bien que la gauche prolétarienne soit marxiste et pas léniniste, pas fascinée par l'organisation de partis, on est quand même amené à faire des procès, des tribunes politiques. Et donc, j'ai comme tâche. Et c'est à l'intérieur de cet engagement-là que je me dis un beau jour, pourquoi on ne ferait pas une mobilisation plus importante sur la situation des prisons? Et je propose ça à mes camarades, surtout que Sartre avait fait un procès des houillères de Lille pour défendre nos camarades qui étaient en prison pour du sabotage qu'ils avaient fait dans les houillères, responsable d'un coup de grisou très grave, où il y avait plusieurs morts. Et Sartre avait fait un procès, où il était procureur, et il avait fait venir des médecins sur la situation dans les mines, qui montraient combien il y avait de morts dans les mines, combien il y avait de maladies dans les mines, et combien la responsabilité des mines était bien plus importante que la responsabilité des malheureux qui avaient foutu trois cocktails Molotov dans les bureaux des houillères. Donc, je suis assez fasciné par cette mobilisation de médecins dans un procès. Et je me dis, tiens, pourquoi on ne mobiliserait pas des intellectuels sur la question des prisons, puisque nous défendions des gens qui étaient emprisonnés. Et je propose le nom de Foucault, mes camarades sont ravis. J'ai un peu de mal à demander ça à Foucault, parce que je dis, bon, il bosse, il n'aime pas trop être dérangeant. Enfin, bon, quand même.
Parce que lui, il ne voulait pas être aussi dérangeant. Enfin,
il
voulait pas être aussi public que Sartre.
Non, ça, justement, ce n'était pas du tout son style. Et moi, j'avoue que je trouvais quand même que la notoriété de Sartre, c'était pas mal. Je trouvais un peu dommage que Foucault ne jouisse pas de la même publicité.
Donc, et pourquoi ça vous plaisait? Ça vous plaisait parce que Michel Foucault était votre compagnon, ou ça vous plaisait parce que vous dites c'est dommage de ne pas utiliser cette notoriété?
Les deux. Oui, je voudrais qu'il avait une notoriété à utiliser, puis que ça lui en redonnerait à lui aussi. Ouais. Donc, moi, je le trouvais bon. J'étais content quand on sortait, que les gens lui fassent la fête, reconnaissent, tout ça. Alors que Sartre, bon, il était terriblement adulé. Donc, je me trouvais que c'est un peu dommage que Foucault soit aussi pudique. Bon. Jansénisme de Foucault, d'une seule maçon. Et donc, je le pousse un peu, puis finalement, il accepte. Et nous créons ensemble le groupe Information sur les prisons, avec Jean-Marie Domnac et Pierre Vidal-Naquet, qui sont quand même des personnalités du monde politique intellectuel très reconnues. Vidal-Naquet a quand même fait sur la torture en Algérie des travaux décisifs. Et voilà, le groupe d'information sur les prisons est lancé, alors que la grève de la faim des prisonniers maoïstes est terminée. Donc, du coup, on crée un mouvement qui était au départ pensé comme un soutien à la revendication du statut de prisonnier politique, mais qui se trouve, au fond, démarré quand cette grève a obtenu sa reconnaissance. Donc, le mouvement s'adresse aux détenus de droit commun, aux prisons en général, et on lance un mouvement envers une population qui n'était pas la cible originelle de la gauche prolétarienne. Et donc, nous lançons notre mouvement. Moi, je me rappelle Jacques Donzelot, qui était un des fondateurs du GIP avec nous, qui était sociologue à Nanterre à ce moment-là. Il me dit, on voit bien que tu es un fils de petit commerçant, tu t'es établi à ton compte avec le GIP. Et c'est vrai qu'on s'est établi un peu à notre compte, à côté de la gauche prolétarienne. Et un jour, Foucault me dit qu'il avait appelé ce groupe, c'est lui qui l'a baptisé GIP. Il m'a dit, il faut le GIP, c'est-à-dire il y a le iota de différence que doivent introduire les intellectuels dans les pratiques de la GIP.
De la GIP. On en reparlera demain soir à Daniel Defer du GIP, mais 40 ans après mai 68, un peu plus de 40 ans, quel regard vous portez sur mai 68? Lorsqu'il y a eu la commémoration des 40 ans en 2008, beaucoup de livres ont été publiés, aussi des livres d'enfants de 68ards. Quel regard vous portez maintenant sur ce moment-là? Et sur la GIP?
Alors, moi, j'ai jamais considéré que 68 était une révolution ratée. J'ai pensé que c'était un soulèvement. C'était pas une révolution. Il n'y avait pas une force politique capable de diriger. C'était un mouvement profondément de masse où les gens ont mis des tas d'aspirations. J'étais très frappé à cette époque que les gens mobilisaient des souvenirs, des expériences de toute l'histoire de la gauche. Il y avait les gens qui avaient vécu le Front Populaire, il y avait les gens qui avaient vécu la Révolution Espagnole, la République Espagnole, il y avait des gens qui avaient vécu la Résistance, des gens qui avaient vécu le soutien au FLN. Et tous ces gens-là apportaient leur expérience. Il n'y avait pas une expérience dominante, il n'y avait pas un parti dominant, il n'y avait pas un parti directeur, mais il y avait une somme d'expériences et d'aspirations. Et moi, je pense que véritablement, les changements profonds sont intervenus dans les rapports d'autorité. les rapports dans les ateliers, dans les laboratoires, les rapports entre, dans les couples, hommes-femmes, enfin, tout ce qui était rapport d'autorité a changé. Je crois que ça a été vraiment un mouvement important, et quand les gens après ont dit, bon, c'était une révolution ratée, tout ça, je dis non, les grands changements ont été pratiquement irréversibles. Et moi, j'ai été très, très sensible à cela.
Et dans ses mémoires, Michel Lebris en parle et dit que c'était surtout, la réussite, elle était surtout culturelle.
Oui, je pense. Mmh. Et Michel Lebris
qui était à la gauche prolétarienne.
Qui était dirigeant du journal La Cause du Peuple, qui était en prison avec Jean-Pierre Le Dantec. C'était les deux premiers qui ont été en prison dans ce moment de la dissolution de la gauche prolétarienne. Il a créé ensuite le mouvement Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Il est resté à la fois dans la musique, dans la culture. Et on était quand même articulé à la révolution culturelle chinoise. Même si on l'idéalisait beaucoup, parce que la révolution culturelle chinoise nous paraissait un grand mouvement démocratique, on a vu que ce n'était pas ça du tout, et que c'était en fait la miniaturisation du stalinisme. Bon.
Vous êtes allé en Chine, vous?
Je suis allé en Chine en 1975 avec Jean Chéneau. Et alors on a fait un voyage très intéressant, on était reçus. Alors c'était juste après le voyage de Tel Quel. Tel Quel avait fait un voyage, Tel Quel avait fait un virage, étant non engagé en 60, engagé auprès du Parti communiste en 68, engagé avec les Mao en 74, et ils avaient fait un retour de Chine où il y a Roland Barthes, François Val, Marcelin Plenet, Solers, je crois également Kristeva, ont écrit sur le voyage en Chine de manière très critique. Et donc, les Chinois espéraient beaucoup, on allait faire nous un voyage en Chine beaucoup plus positif. Et moi, j'avais proposé à mes camarades que nous publions nos notes. Nous étions 14 ou 15, et j'aurais aimé qu'on fasse un cahier de nos 15 notes. Parce que les gens auraient vu que nous racontions strictement la même chose, que visiter la Chine, c'était écouter les Chinois vous raconter la Chine. Et le bouquin de Machiotti, qui avait un énorme succès, c'était pas du tout ce qu'elle avait vu en Chine, c'était ce qu'elle avait entendu. Et moi, je me suis amusé beaucoup plus tard à faire un papier pour les temps modernes, sur les jésuites en Chine. Les jésuites en Chine, ils racontaient la Chine à partir de documents qui dataient déjà de 3 ou 4 siècles, à un moment d'une renaissance, je sais plus si elle était confucianiste, oui je crois c'est un moment d'une renaissance. Et alors ils traduisaient des livres qui avaient déjà 3-4 siècles et ils en faisaient leur expérience de la Chine. Et je retrouvais les mêmes exemples dans le livre de Machiocchi ou dans le livre de Michel Loy que je trouvais chez les jésuites qui en 18e siècle nous racontaient la Chine mais avec déjà du retard. Alors si vous voulez l'expérience de la Chine, c'est quand même quelque chose de drôle. Alors nous en avons fait un récit mythique, quoi, un récit ultra-démocratique, ce qui n'était pas le cas.
Merci Daniel Defer.
C'était À Voix Nue. Cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Daniel Defer. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehor. Réalisation Laetitia Coya. Coordination Sandrine Trainer. Demain, suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné avec Daniel Defer.